écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Nous ne sommes évidemment pas tous égaux face à l'inflation, et ce sont les personnes isolées qui en payent le prix fort. On vous explique tout ça dans un instant, mais d'abord, le nouveau modèle de la loi Renault recalé au contrôle technique. On le sait maintenant, le projet de loi porté par le ministre Dermagne ne verra pas le jour sous cette législature. Je m'appelle Julien Cambier. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le nouveau modèle de la loi Renault restera au garage. Le projet de loi déposé par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, est recalé par les interlocuteurs sociaux. Pas de changement en vue donc pour cette procédure vieille de 26 ans qui encadre les licenciements collectifs. Quels étaient les ajustements proposés dans ce projet de loi? Pourquoi est-il bloqué? On a posé ces questions et d'autres à Pascal Laurent, journaliste au Pôle Économie.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Commençons par mettre les choses au clair pour nos auditeurs. C'est quoi cette fameuse loi Renault?
Donc, la loi Renault, c'est une loi qui a été adoptée à la fin des années 90 après la fermeture brutale de l'usine Renault-Vilvoorde, décrétée par le groupe français. L'annonce de cette fermeture avait suscité pas mal d'émoi et dans la foulée, le gouvernement belge avait estimé qu'il était nécessaire de codifier l'annonce d'une fermeture ou d'une restructuration massive, donc 10% minimum du personnel. Donc, elle avait imposé une phase d'information des syndicats, donc des représentants des travailleurs, puis une phase de négociation avant la signature d'une CCT, donc d'une convention collective de travail, pardon, actant la restructuration. L'idée sous-jacente, c'était de dire d'abord, un, on va obliger la direction à répondre à toutes les questions des syndicats. On va obliger la direction d'une entreprise qui restructure ou qui ferme à négocier le volet social et éventuellement à revoir ses prévisions à la baisse et ensuite à obtenir l'accord des syndicats sur ce plan de restructuration. Tout cela était formel puisqu'on n'empêche pas une entreprise de licencier, mais permettait un dialogue social qui, dans certains cas, a conduit à une réduction des dégâts, si je puis dire, une réduction du nombre de personnes de licenciements secs, avec l'activation de certaines pistes, comme les anciennes prépensions, qu'on appelle désormais chômage avec complément de l'employeur. Et parfois, le temps de négocier cette restructuration, la conjoncture économique s'améliorait et l'entreprise finalement décidait de revoir à la baisse le nombre de travailleurs dont elle se séparait.
Et donc le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a proposé un nouveau modèle pour cette loi. Qu'est-ce qui l'a motivé à proposer cette nouvelle mouture?
En fait, ces dernières années, on a constaté que dans certains cas, une minorité des cas, mais des cas néanmoins très médiatisés, les directions d'entreprise, voire les groupes propriétaires d'entreprise, ont tenté de contourner cette loi ou, par ailleurs, dans le cadre d'une grande entreprise, je vais citer les cas après, la restructuration avait un impact sur les sous-traitants, or ceux-ci n'étaient pas concernés par la loi Renault. Et donc, c'est tout cela que le ministre Dermagne a voulu modifier. Alors, je prends mes exemples. Dans le cas de Caterpillar, la fermeture de Caterpillar à Gosselies en 2016, il y avait plus de 5000 emplois indirects concernés par cette restructuration. Le ministre voulait intégrer dans la loi Renault le fait que désormais les co-contractants ou les sous-traitants puissent être informés des intentions de la direction et donc recevoir les informations économique pour s'adapter à cette restructuration et en mesurer les conséquences pour eux. Et dans l'hypothèse où 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise dépendrait de cette entreprise qui ferme ou qui restructure, il y aurait la possibilité pour ce sous-traitant de demander une analyse d'impact à cette entreprise qui se restructure. Et donc, c'était une manière pour les sous-traitants d'avoir voix au chapitre et de pouvoir mesurer clairement quelles seraient les conséquences pour eux d'une restructuration. Puis, on a vécu deux situations où la loi Renault a été contournée, que l'esprit de la loi a été bafoué. C'est d'abord Macron, où là, le groupe allemand Metro a cédé à une société dont le but était de valoriser les actifs, si je puis dire. Elle a cédé ses magasins belges de Metro et de Macro. Le cessionnaire, donc Bronze Properties, est parvenu à revendre les magasins Metro, mais il n'a rien pu faire pour les magasins Macro. Et donc, au bout de 6 mois, il a déposé le bilan et les magasins Macro ont fait faillite. La conséquence, c'est que les travailleurs de chez Macro n'ont pas eu droit au plan social et au préavis auquel ils auraient pu prétendre compte tenu de leur ancienneté et si Metro était resté propriétaire des magasins. Or, clairement, l'opération de Metro visait à se débarrasser d'une pomme pourrie, si je puis dire, mais sans assumer le passif social de ces magasins. Donc, les gens ont été dirigés vers le fonds de fermeture des entreprises et certains pouvaient prétendre parfois à plus de 100 000 euros de préavis. Un témoin m'a cité son cas personnel qui était de 140 000 euros et au fonds de fermeture, ils ont touché 30 500 euros plafonnés, moins ce qu'ils avaient déjà reçu du chômage, moins des taxes, etc. Donc, à tout casser, entre 10 et 15 000 euros dans le meilleur des cas. Donc, on mesure la différence. C'est presque 10 fois ce qu'ils auraient pu obtenir si jamais le groupe Metro avait assumé ses responsabilités. L'autre cas de figure, il est très connu, il est dans l'actualité, c'est la restructuration chez Deleuze avec la franchisation des supermarchés. Si Deleuze devait assumer le volet social des départs qui auront lieu dans les mois qui viennent parce que le modèle économique des franchisés n'est pas celui d'un magasin intégré, donc on sait qu'il y aura des gens qui vont partir. Si Deleuze devait assumer ça, ça lui coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Or là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le coût de ces départs sera en partie à charge des franchisés, à moins qu'ils n'arrivent à pousser vers la sortie, vers la démission volontaire ou vers la maladie des travailleurs qui sont peut-être trop âgés pour pouvoir s'adapter à ces changements. Donc dans les deux cas, on se retrouve avec deux directions qui ont voulu éviter le coût social d'une restructuration.
Donc, tu en as déjà un peu parlé, mais concrètement, quels sont les ajustements proposés par ce nouveau projet de loi ?
Alors, donc, j'ai déjà parlé de la volonté du ministre de donner aux sous-traitants et co-contractants la possibilité d'accéder aux informations économiques liées à la restructuration. Il souhaitait également créer une sorte de responsabilité du cédant, donc Deleuze dans un cas, le groupe allemand Metro dans l'autre, dans les exemples que j'ai donnés, une responsabilité solidaire avec l'entreprise, la société qui a racheté les magasins. Et cela pour tout ce qui concerne les dettes à l'égard des salariés. Autrement dit, si un salarié était licencié 6 mois ou 1 an après la reprise du magasin, ou si les salariés perdaient leur emploi dans le cadre d'une faillite, le cédant avait à leur égard encore une responsabilité qui le conduisait à devoir assumer tout ou partie du préavis de ce travailleur. Et cette responsabilité s'étalait dans le temps de 1 an à 5 ans en fonction de l'ancienneté du travailleur. Donc on peut imaginer, par exemple, dans le cas de Macro, que le groupe Metro aurait été responsable et aurait dû assumer le préavis de la plupart des travailleurs de Macro dans les 5 années qui viennent. Autrement dit, son opération n'aurait pas pu être possible parce qu'il fallait que les magasins tiennent encore 5 ans avant de faire faillite pour qu'ils ne payent pas d'enveloppe sociale.
2 mois après que la direction de Deleuze a annoncé vouloir franchiser ses supermarchés, la FGTB demandait une adaptation de la loi Renault en loi Deleuze. Est-ce que cette demande correspond aux ajustements proposés par le ministre du Travail ou son projet de loi va moins loin ?
Certains aspects de la demande de la FGTB ont été rencontrés, pas tous. Après, il faut savoir que le ministre d'Allemagne officiait au sein d'une coalition. Donc, sa proposition était déjà une proposition qui relevait en partie d'un compromis.
On sait maintenant que ce texte ne sera pas adopté sous cette législature. À quel niveau ça a coincé et pourquoi ?
Il faut constater que ce compromis-là n'a pas été suffisant pour que les interlocuteurs sociaux, donc les patrons et les syndicats, s'entendent là-dessus. Ils ont estimé de leur côté qu'un certain nombre de propositions avancées par le ministre d'Allemagne pouvaient être réglées via des conventions collectives, de l'adaptation de conventions collectives de travail, et que d'autres aspects, sans doute les plus ambitieux de sa proposition, devait encore faire l'objet d'études au sein du Conseil national du travail. On peut constater, par exemple, qu'ils n'ont pas jugé opportun d'interdire le travail étudiant en cas de grève. C'était aussi dans la proposition du ministre d'Allemagne. Il faut se souvenir que pendant le conflit de l'Aise, les salariés ont fait grève et que dans certains cas, les directions de magasins ont eu recours à des étudiants pour continuer à faire tourner les magasins. Le ministre d'Allemagne souhaitait interdire ça, relayant en cela une demande syndicale au nom de la sécurité, parce que pour faire travailler des étudiants, il faut un minimum d'encadrement de personnel salarié. Et il faut constater que cette proposition n'a pas obtenu de consensus au sein du Conseil national du travail. Donc elle a également été recalée. Sachant que nous arrivons en fin de législature et que le mois prochain, on procédera à la dissolution des chambres avant la convocation des élections, on se rend compte que la réforme de la loi Renault ne peut plus passer, ne peut plus être votée dans un délai raisonnable.
Après ce coup d'arrêt, est-ce que ce projet est complètement enterré ou existe-t-il un espoir de voir son adoption sous la prochaine législature?
Sachant que la probabilité de voir un ministre rempiler avec le même portefeuille est assez faible, on peut imaginer que, à moins que le PS ne garde le portefeuille de l'emploi sous la prochaine législature, dans le cas contraire, cette proposition est morte et enterrée.
Merci Pascal.
Avec plaisir.
Après plusieurs mois d'augmentation, l'inflation se stabilise au mois de mars. Une bonne nouvelle pour tous les Belges et encore plus pour les personnes isolées. D'après le bureau d'études GFK, ce sont eux qui ont été le plus impactés par l'inflation. On vous explique tout ça avec Julien Bossler, journaliste au Pôle Société. Bonjour Julien.
Bonjour Julien.
À quel niveau est l'inflation pour le mois de mars en Belgique?
Si on prend l'inflation dans sa totalité, on est sur la stabilité, on en est à plus 3,18% selon Statbel, donc c'est vraiment une bonne stabilité. Maintenant, si on s'intéresse à l'inflation alimentaire qui a très fort grimpé depuis un an, eh bien là on voit aussi que c'est la stabilité. Donc chez Statbel, on a des chiffres très équivalents à l'inflation générale, on est à 3,21%. On a une contribution de l'alimentation à l'inflation générale qui est très faible, on est à 0,67 points, donc c'est pas du tout la même situation qu'il y a un an où on avait une incroyable flambée des prix. En mars 23, on était à plus 17% par rapport à mars 22. Et du côté de TestaChat, qui mesure l'inflation dans 7 chaînes de supermarchés et qui se concentre sur l'alimentation, eh bien, on voit aussi là qu'on a une nouvelle baisse, une stabilisation aussi. On est à plus 2,73%. Donc, ça semble assez réjouissant, hein, de voir que les prix se sont stabilisés en un an. Cela dit, rappelle TestaChat, on est quand même à plus 24% d'augmentation des prix en supermarché sur 2 ans.
Comment explique-t-on cette stabilisation?
L'alimentation, en fait, a augmenté en décalage avec le reste de l'inflation. Il y a cet effet retard, en fait, qu'on constate, en fait, au niveau alimentaire. Et cette inflation alimentaire, comme on s'y attendait, elle s'est stabilisée pour les mêmes raisons que l'inflation en général. Une des raisons, eh bien, c'est la stabilisation et puis le fort recul des tarifs énergétiques. C'est une des raisons. Il y en a d'autres, comme la stabilisation, par exemple, du prix d'une série de matières premières.
Peut-on espérer alors que les prix vont diminuer en rayon?
Alors, malheureusement, c'est assez improbable. Il y aura évidemment des exceptions. Il y a peut-être des produits qui, à certains endroits, effectivement, vont baisser de prix. Cela dit, revenir au niveau d'avant le début de l'inflation, ça, c'est illusoire. C'est ce qu'on appelle le syndrome du paquet de frites, bien décrit comme ça par les économistes. C'est-à-dire que quand les pommes de terre augmentent, le paquet de frites augmente. Et quand les pommes de terre baissent de prix, eh bien, malheureusement, le paquet de frites, lui, il reste figé au même prix.
Nous ne sommes évidemment pas tous égaux face à l'inflation. Et le bureau d'études CPS-GFK a objectivé ce constat dans une étude. Quel type de ménage a été le plus impacté par l'augmentation de l'inflation?
Alors clairement, les ménages les plus impactés par l'inflation, et ça peut paraître assez étonnant, ce sont les ménages qui sont composés d'une personne. Typiquement les célibataires sans enfants ou les seniors veufs ou veuves. Et on voit en fait que ces personnes ont dépensé davantage en 2023 qu'en 2022 par rapport à la moyenne. Donc, En moyenne, les ménages ont dépensé 8% de plus en 23. Mais quand on prend ces ménages composés d'une seule personne, donc les isolés, eh bien on voit que leurs dépenses ont bondi de 13%.
Et qu'est-ce qui explique cette différence ?
En fait, il y a toute une série de raisons qui expliquent cette grande disparité. Alors, l'explication numéro un, c'est la nature de la consommation de ces personnes isolées. Elles consomment davantage de plats préparés, de produits transformés. Et en fait, ces produits-là, ben, ce sont ceux qui ont augmenté le plus avec l'inflation. A contrario, les ménages où il y a plusieurs membres ont davantage tendance à cuisiner. Et là, en fait, ces personnes-là ont été moins impactées. Parce que quand on achète des produits bruts et qu'on les transforme soi-même, qu'on les cuisine soi-même, eh bien on subit moins l'inflation. Autre grande explication, c'est le fait que les aliments conditionnés pour une personne sont en moyenne plus chers au kilo que les aliments conditionnés pour plusieurs personnes. Donc les gros emballages, hein, ça on sait bien, hein, quand on achète en quantité, les gros emballages, ça coûte moins cher au kilo. Et en plus de ça, dans la grande distribution, les mesures anti-inflation, ces promotions pour aider les consommateurs qui ont des difficultés au niveau de leur pouvoir d'achat, on voit qu'elles sont axées sur des achats en certaines quantités. Hein, ce sont les fameuses promotions, par exemple 2 plus 1 gratuit. Et ça, quand on vit seul, on est beaucoup moins tenté d'aller vers ce genre d'offres. On est moins tenté de stocker parce que tout simplement, il n'y a pas plusieurs membres dans le ménage pour consommer tous ces aliments. Et donc, on passe à côté de ces mesures d'aide proposées par la grande distribution.
Même au sein des personnes isolées, on observe une disparité. Quelles sont les personnes isolées qui ont été le plus touchées et pourquoi ?
Alors, on voit en fait que les consommateurs isolés qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont ceux qui appartiennent à la catégorie sociale la plus basse. En moyenne, ils ont dépensé 19% de plus, ce qui est à mettre en rapport avec la classe sociale la plus haute, où là, on a une augmentation de la consommation de ces personnes isolées de 6% seulement. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a un certain train de vie, un bon train de vie, on peut plus facilement faire des économies, par exemple, changer de marque d'aliments à des aliments qui coûtent moins cher, passer du steak au haché, ou au poulet, ou aux œufs. On peut aussi changer de supermarché. Donc on a toute une faculté d'adaptation, en fait, toute une marge d'adaptation par rapport à l'augmentation du prix de la vie. Et ça, forcément, quand on appartient à une classe sociale basse, qu'on a peu de revenus, qu'on souffre déjà du coût de la vie, ben on a déjà mis en œuvre en fait toutes ces mesures d'économie, on s'est déjà serré la ceinture. Et donc forcément, comme on n'a plus cette marge d'adaptation, ben on se prend l'inflation de plein fouet. Et ça, en fait, ça montre que dans des périodes d'inflation comme celle qu'on a vécue, eh bien, les inégalités sociales se creusent davantage.
Merci Julien.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain. Merci pour votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À bientôt.